Radio Foot International. Annie Gasnier.
Bonjour et bienvenue dans Radio Foot International sur RFI. Comme en début de chaque semaine, eh bien, nous allons nous intéresser au championnat en Europe et d'abord avec Kylian Mbappé en championnat de France, le buteur en série du PSG sous une pluie d'éloges au lendemain de son premier quadruplé. Le PSG gagne, son jeune attaquant flambe, le champion du monde continue à étonner et à séduire. Serait-ce l'année Kylian Mbappé ? Le PSG s'envole, Monaco s'enfonce dans le classement de la Ligue 1, mais que se passe-t-il sur le rocher ? Le Bayern Munich en zone de turbulence, l'équipe de Bavière n'est plus la machine à gagner si bien huilée que l'on a connue. La voilà même sixième de Bundesliga. Mauvais départ dans le sillage d'un nouvel entraîneur, ou bien crise passagère ou profonde au Bayern, nous en parlerons. Enfin, Liverpool et Manchester City dos à dos. Le sommet accouche d'un match nul et Jürgen Klopp reste l'entraîneur qui arrive à contenir la tactique Pep Guardiola, alors que l'autre Manchester United a enfin vu sourire José Mourinho. Ces hommes ont effectué une remontada contre Newcastle. Pour parler justement de tous ces sujets, Karine Galli, vous êtes là, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Il y a aussi eh bien, notre spécialiste du foot anglais, Bruno Constant, bonjour Bruno.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et puis Marc Libra, spécialiste de tout, bonjour Marc.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Radio Foot, c'est parti.
Neymar, Mbappé, cette fois c'est le bon. Marquinhos, Verratti, Marquinhos, le centre à Marquinhos. Kylian Mbappé, Kylian Mbappé vers le triplé, Kylian Mbappé, c'est le bon, le coup du chapeau, et Mbappé peut-être pour un quadruplé, non, il la donne à Neymar, la frappe de Neymar contrée, ça revient sur Kylian Mbappé, et de 4, c'est la 5 Kylian, ce soir au Parc, 5-0 pour le Paris Saint-Germain, 4 buts de Kylian Mbappé, le génie français.
J'ai eu beaucoup d'occasions, voilà, dans un premier temps je les ai pas transformés et après voilà j'ai réussi à mettre 4 buts et on bat le record.
Il a reçu sa récompense avec les 4 buts. Il a joué magnifique avec ensemble avec Ney, c'était toujours dangereux.
Ici c'est Paris, disent les supporters, ici c'est Mbappé, dit la presse aujourd'hui, Kylian Mbappé, c'est magique, au lieu de, évidemment, Paris c'est magique. Alors homme du match, avec la note 9 de nos confrères de l'équipe et du Parisien, l'attaquant de 19 ans du PSG a mis le feu hier à cette attaque parisienne et contribué à la 9e victoire en 9 matchs de l'équipe. Surtout Kylian Mbappé bat des records, c'est et à lui seul en plus, 13 buts entre le premier, 13 minutes. Pardon, entre le premier et le dernier but qu'il a inscrit hier soir, ce que personne n'avait encore fait en Ligue 1 ces 45 dernières années. Il est le plus jeune à être l'auteur d'un quadruplé, le seul avec Neymar aussi à être impliqué dans plus de 10 buts en ce début de championnat en 8 matchs. Aurait-il fallu lui mettre la note 10, Marc, finalement, dans l'équipe, quand on voit tout cela de la part de Kylian Mbappé ?
Non, pas du tout.
Non ?
Non, non,
on n'est jamais parfait.
Non, mais la perfection, c'est si sur la première période, il en met 4, parce qu'il peut en mettre 4 sur la période. Donc ça fait 4 et 4, ça fait 8. Donc en fait, 9,
il
c'est bien.
Il le dit d'ailleurs, hein. Il le dit, j'aurais pu en mettre plus.
Non, mais sur la première période, c'est assez fou, parce qu'on peut quand même avoir déjà 2, 3 buts, 4 buts. Et puis à l'arrivée, mais on le voit, ce sentiment quand il marque le premier but et qu'il dit, ça y est, allez, c'est fait. Il prend ses mains sur sa poitrine, ça y est, j'ai marqué, je me suis relâché, tout va bien. Mais, non, 9, c'est extraordinaire. C'est vrai que si sur la première période, il arrive à, parce qu'il est encore, c'est là où on peut dire,
c'est rassurant
parce que ce n'est qu'un gamin, il est encore jeune à ce niveau-là. Mais après, sur le reste, il est stratosphérique.
Karine, d'autant plus que finalement, il a marqué 4 buts, mais c'est vrai qu'on le voit altruiste en plus, c'est-à-dire il veut pas avoir le monopole de ses 4 buts. Plusieurs fois la balle va lui revenir dans les pattes, mais il avait fait des passes au départ pour un peu vers d'autres qui sont mieux placés, je pense à Neymar.
Oui, mais de toute façon les deux essayent de se faire briller et on
on voit que leur relation technique sur le terrain est évidente, leur affinité également, et ils ont envie de se donner et de se faire briller mutuellement. On l'avait vu contre Nice également, où il y avait Mbappé qui voulait faire briller Neymar et vice versa. Après, pour revenir aux notes, ça veut rien dire. Moi, je me souviens que l'an dernier, Neymar a eu 10 face à Dijon. Mm-hmm. J'ai jamais compris comment on pouvait mettre 10 à un joueur qui avait...
Bah, il avait mis un quadruplé aussi, justement,
Il avait été décisif sur 6 des 8 buts parisiens. Mais c'était Dijon. Il y a un moment, il faut aussi toujours évaluer l'adversaire et
Là, c'est Lyon.
Je veux dire, voilà. Non, mais je pense que pour le coup, ce qu'a fait Mbappé hier, c'est plus impressionnant que Neymar par rapport à Dijon. Mais après, on peut pas non plus le mettre sur le même plan que Lewandowski, qui avait mis un quadruplé avec Dortmund à l'époque. Et lui avait eu 10. Et c'était fort logique par rapport à Neymar qui avait eu 10 contre Dijon. Donc voilà, les notes, ça veut rien dire. Mais en tout cas, c'est un récital, mais un récital en seconde période, parce qu'en première mi-temps, collectivement, ils n'ont pas été
au rendez-vous. Oui, on va y revenir sur l'ensemble du match.
Et au final, ça fait un score fleuve, et ça fait un écart monstrueux avec les Lyonnais. Donc, c'est exceptionnel pour nous qui regardons du foot, mais c'est quand même extrêmement inquiétant, avant tout, je trouve.
Bruno, Kylian Mbappé, l'année dernière, on se souvient de cette saison où on avait d'abord eu pratiquement Neymar. Après Neymar blessé, on a eu Mbappé. On a l'impression que cette année, enfin, on les voit les deux à l'œuvre et qu'ils peaufinent leur style un peu tous les deux de surdoués du football.
Bah ouais, c'est assez logique parce qu'ils ont davantage de vécu déjà au PSG, davantage de vécu tous les deux, et on voit bien aussi bien en dehors du terrain que sur le terrain, ils s'adorent, qu'ils se cherchent énormément, parfois un peu trop. En seconde période, il y a ce ballon, à un moment donné, je crois que c'est Mbappé qui peut servir Neymar, mais qui doit surtout servir Meunier, qui a un boulevard à droite et qui le fait pas. Donc voilà. Après, moi sur le match, je trouve par exemple que Neymar était meilleur qu'Mbappé. J'ai pas trop compris les alors voilà, après on peut débattre de toutes les dates, hein, mais je trouve que Neymar dans son contenu était bien meilleur qu'Mbappé parce qu'il a fait jouer les autres, qu'il était extraordinaire au niveau de la passe, et qu'à un moment donné Mbappé était très très bon pendant une demi-heure, notamment à 10 contre 10 où il y a du coup beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de boulevard devant, et notamment pour lui avec sa vitesse. Donc voilà, après ça joue à pas grand-chose, mais c'est bien en tout cas que les deux soient s'entendent et que le PSG en tire profit et que voilà, il y a un peu plus de simplicité je trouve dans le jeu d'Mbappé cette saison.
En tout cas, ils se suivent, hein, puisque alors maintenant avec ce quadruplé, Kylian Mbappé, eh bien, est à égalité des meilleurs buteurs avec Neymar. Mais un marque toutes les 50 minutes et l'autre marque toutes les 89 minutes. En même temps, l'un est purement attaquant, ce qui est le cas de Mbappé. Neymar est plutôt aussi organisateur du jeu. Mais écoutons-le, Neymar, parce que à la fin, eh ben, il n'a pas pu éviter, lui aussi, quand même, d'apporter quelques éloges à son camarade de jeu.
Kylian est un très grand joueur. On connaît sa valeur. C'est un crack. J'ajouterais même un phénomène. Et je le félicite pour ces 4 buts qui ont facilité notre victoire.
Neymar au micro de Marco Martins, notre confrère de la section lusophone ici. Est-ce que c'est une admiration un peu forcée peut-être, Marc, entre les deux, ou au contraire, ils parlent la même langue sur le terrain ?
Non, sur le terrain, ils parlent la même langue. Après, je pense pas que ce soit forcé. Je suis toujours très dur avec Neymar, en pensant qu'il joue tout seul, enfin qu'il joue que pour lui. Là, je crois que ça fait quand même, sur ce match-là, on a vu le vrai visage de Neymar qui peut apporter énormément au PSG. Il a été très impressionnant. Pour moi, il est au-dessus d'Mbappé sur ce qu'il a fait hier. C'est-à-dire, tout est précis, tout est bien fait, tout est réglé à la seconde près. Mais quand il est comme ça, mais il est inarrêtable. Et moi, ce qui me fait le plus de peine, c'est qu'on se rend compte que peut-être aujourd'hui, ils ont peut-être plus besoin de Cavani, quoi. Parce qu'à deux, ça marche devant. C'est ça le plus, pour moi, ce qui me fait le plus de peine, parce que j'adore Cavani, hein. Je suis un pro Cavani, je le défends, vous le savez. Mais là, malheureusement, quand on voit les deux qui sont capables d'évoluer comme ça, pour
l'équilibre très de l'équipe, dur. Pour l'équilibre de l'équipe, il serait peut-être meilleur seulement avec les deux. Et pas Cavani,
oui,
ouais.
Mais tu sais, quand il sort Cavani, je me dis, bon, il y a deux choses. Il se dit, ben, finalement, je vais garder Mbappé, parce que pour moi, sur ce coup-là, c'est peut-être Mbappé qui doit sortir, en disant que Cavani va faire les efforts. Tu sais, il va faire beaucoup plus d'efforts, il va se battre. Puis finalement, bon, après, il y a Touzard qui fait cette erreur.
Mais Mbappé finalement, est meilleur dans le jeu. Mbappé est meilleur balle au pied.
C'est pas ça. C'est qu'il, pour moi, dans ce sens, il se dit, bon, je vais conserver le petit Mbappé, parce que quoi qu'il arrive, il va partir avec ses flèches, il va tellement aller vite qu'il va nous faire la différence. Et le choix est payant. Mais surtout, ce qui est flagrant, c'est que, à deux devant, on a bien vu que, là, à ce moment-là, puisque la plupart du temps, quand il y a Cavani, il joue, on le sait, il joue rarement pour lui, en Ligue des Champions, il joue rarement pour lui. C'est que là, on a presque plus besoin de lui. Et ça, c'est, je vous assure, c'est terrible parce que Neymar, à ce niveau-là, s'il est capable de reproduire ce genre de prestations et de jouer pour l'équipe et de se mettre en avant, mais là, il y a plus rien qui va les arrêter, quoi, à ce niveau-là. Donc, c'est le constat.
Après, Lyon a un comportement suicidaire, quoi. Ah, mais 10 contre 10, laisser autant d'espace dans leur dos, de leur défense face à Mbappé, c'est
avant 10, l'erreur de la première, c'est Lopez, et la deuxième, c'est Touzard. Et le match, il s'arrête. Parce que, autrement, pendant une heure, Lyon a été meilleur que Paris, quoi qu'il arrive.
Juste encore, peut-être un petit mot sur Kylian Mbappé. En plus, vous parlez de ses flèches et de ses accès, ses rapidités. Alors, il a marqué 4 buts sur les 5 du Paris Saint-Germain, qui l'emporte donc par 5-0. Mais même le premier, le penalty, est provoqué par lui.
Oui, bien sûr, c'est Neymar qui le transforme, mais c'est évidemment lui qui est fauché et qui subit la faute.
Et il en provoque souvent des penalties. On se souvient pendant la Coupe du Monde avec l'équipe de France, il provoque aussi, en allant trop vite, l'expulsion d'un joueur qui le fauche. Donc finalement, non seulement il marque, non seulement il fait des passes décisives, mais en plus il provoque des faits de jeu qui sont en faveur de son équipe.
Oui, oui, il est complet. Après, effectivement, il y a quand même aussi des zones où il doit s'améliorer, c'est-à-dire que il a plus de déchets qu'avant. Alors évidemment, il met 4 buts et c'est exceptionnel. Mais si on regarde sa première mi-temps, il y a plus de déchets. Et parfois, il force aussi, il veut à tout prix frapper, alors que c'est pas forcément ce qu'il doit faire. Il l'avait fait également le week-end d'avant. Il l'avait même fait aussi un petit peu contre Belgrade. Alors au final, on voit les scores et ça s'enchaîne. Il y a du 6-1, il y a du 5-0 et c'est très bon. Mais dans le contenu, on voit bien que si tu tombes face à Naples et ça va arriver, si tu tombes face à Liverpool, ce genre de prestation peut ne pas être suffisante parce qu'ils ont des défauts qui évidemment seront ciblés par les adversaires et des adversaires forts et intelligents techniquement et tactiquement s'en serviront forcément.
Mais alors il a encore plein de choses à apprendre, Kylian Mbappé, et vous allez l'entendre, à 19 ans, bien, il le dit, il l'assume, c'est peut-être une façon aussi évidemment de trouver des excuses ou de se dédouaner.
Neymar, comme je l'ai dit, est un grand joueur. Je vais apprendre à ses côtés et je continue mon apprentissage et c'est tout bénéf pour le Paris Saint-Germain.
Mais c'est rassurant. Non, ouais, mais honnêtement, voilà. S'il avait déjà tout, je veux dire, c'est déjà un bonheur et un régal, et on voit qu'il progresse en plus quand même d'année en année, parce que il a basculé dans un autre monde en passant de Monaco et en signant au PSG. Heureusement qu'il a encore des failles, heureusement qu'il a encore une marge de progression. C'est quand même rassurant.
Et qu'il le reconnaisse surtout.
Qu'ils le reconnaissent aussi. Après, vous parliez du Ballon d'Or. Moi, je trouverais que ça serait prématuré. Alors après, on dit toujours l'âge ne compte pas, etc. et tout. Mais si il a déjà un Ballon d'Or à 19 ans ou à 20 ans, je sais pas quel jour le Ballon d'Or est remis exactement.
Le 3 décembre prochain.
Ah bah alors, mais il n'aura que 19 ans, voilà. ça paraît complètement dingue. Et si on regarde sa saison en elle-même, sa saison n'est pas que une réussite.
Justement, Marc ou Bruno, ce Ballon d'Or, alors l'équipe révélera aujourd'hui les 30 noms de cette liste parmi laquelle voteront ceux qui font partie du jury France Football, et on en parlera demain de cette liste avec les 30 noms, mais évidemment Mbappé y sera déjà. Est-ce que c'est lui qui doit succéder par le potentiel qu'il a, hein, par sa jeunesse, par cette précocité, révérencié notamment par Pelé, hein, le Brésilien, ouais, ouais. Est-ce que c'est lui qui devrait gagner déjà un Ballon d'Or, ou on peut se dire il a le temps?
Non, je pense que pour l'instant ça me paraît un petit peu juste quand même, même si
il est champion du monde et il est champion de France.
Ouais, non mais c'est ça me paraît un petit peu tôt. Puis faut pas oublier qu'ils ont créé un petit Ballon d'Or pour lui, donc ce petit, il va pas avoir le petit ballon d'or de moins de 21 ans et le Ballon d'Or, c'est-à-dire qu'il peut pas. Non mais c'est
il va lui arriver ce qui est arrivé à la Coupe du Monde, c'est-à-dire à la Coupe du Monde, il est meilleur jeune joueur, voilà. Et du coup ça entre guillemets libère le prix du meilleur joueur pour en l'occurrence Luka Modric. Et vous pensez que le Ballon d'Or c'est pareil,
hein? Non mais après,
on le sent gros comme une maison quand même.
La compétition reine de le petit Ballon d'Or.
Oui.
Ah mais il a été créé pour lui.
On le sent gros comme une maison.
Il est créé pour lui. Un très bon joueur de moins de 21 ans.
Voilà. Ils ont créé ça.
C'est
qui peut être c'est quelle surprise. Non, après je pense que le révélateur va être quand même la Ligue des Champions, d'aller au bout de la Ligue des Champions et essayer de la gagner, quoi, parce que c'est quand même la compétition que tout le monde attend, quoi. C'est-à-dire.
Et c'est là qu'on l'attend lui aussi.
Bah c'est là qu'on l'attend lui avec Paris aussi. Mais si aujourd'hui il est capable la saison prochaine de faire basculer le PSG dans une autre dimension. En quart, demi et même finale Ligue des Champions, là c'est autre chose, quoi.
Alors Bruno, s'il ne le gagne pas encore, ce Ballon d'Or, et qu'il le gagne sans doute plus tard s'il continue,
il
évidemment,
oui, c'est sûr.
Sur la même dynamique, hein, souhaitons-lui, mais Didier Deschamps qui est réuni avec les Bleus à Clairefontaine et où les a rejoints d'ailleurs Kylian Mbappé aujourd'hui, il dit il fait des choses qui sortent de l'ordinaire, c'est prodigieux, mais lui aussi dit il doit encore progresser. Où est-ce qu'il peut progresser alors?
Déjà, heureusement qu'il le dit, parce que si Deschamps dit qu'il a plus besoin de progresser, il y aura un souci quand même. Mais, mais évidemment, il a besoin de progresser dans sa constance, dans ses choix, de guider ses choix par le bon sens et pas par la personne qui cherche à chaque fois, qui est souvent une Neymar. Mais, et puis surtout, on l'attend surtout dans des matchs à haute intensité, contre Liverpool, contre Naples, en quart de finale de Ligue des Champions, s'ils vont, en demi-finale, en
on
finale.
On l'a vu un peu quand même à Liverpool, c'est de ceux qu'on a vu quand même dans le Paris Saint-Germain.
C'est lui qui marque, ouais.
Oui, mais enfin, on l'a vu aussi dans le négatif. On l'a vu dans les deux côtés.
Après,
que c'est une réussite, sa prestation en Anfield. Si on le place tout en haut,
notamment dans les efforts défensifs.
Après, il n'y a pas beaucoup de Parisiens qui ont été très bons à Anfield, donc c'est un peu compliqué juste de le sortir. Mais oui, on l'attend dans des grands rendez-vous. Et la Coupe du Monde, on en parle beaucoup, on dit que c'était un des meilleurs joueurs. Mais moi, je trouve qu'à partir des quarts, voire demi-finales, finales, il était un petit peu moins présent. Il était très discipliné, mais ce n'était pas le meilleur Français sur la pelouse. Griezmann était meilleur que lui, par exemple. Donc, il a encore, heureusement qu'il a une marge de progression. Et de toute façon, hallucinant, c'est qu'il va encore progresser. Et là, on va vers un phénomène, carrément.
Après, tu parlais effectivement de Griezmann. Quand même, la différence, c'est que entre eux, ils se reconnaissent. Et en fait, Pelé reconnaît qui ? Il reconnaît Mbappé. Il parle jamais de Griezmann. Griezmann, les très très grands joueurs, les joueurs hors normes, ils ne parlent pas de Griezmann. Alors que Griezmann est un prétendant au Ballon d'Or, que lui le veut, qui fait sa campagne, ce qui est logique.
Parce qu'ils n'ont pas le même âge.
Oui.
Parce que Pelé, il parle presque du futur, du présent futur.
Pelé, c'était à 17 ans qu'on le découvre aussi.
Oui, voilà, c'est ça, il y a eu une comparaison.
Pelé, il a fait exactement la même chose avec Eden Hazard. C'était à Londres, moi j'y étais, c'est il y a 5 ans. Il avait dit Hazard, c'est le futur prodige, phénomène, etc., etc. Il dit souvent, il est interrogé sur les jeunes prodiges qui montent et il répond par l'affirmatif, parce qu'il ne va pas dire le contraire.
Mais après, qui ressort de la finale ? On parle tous de Mbappé parce qu'il est très jeune, parce qu'il a marqué en finale. Griezmann a marqué aussi, c'est sur pénalty, on en parle moins. Et au final, je pense que pour le Ballon d'Or, je pense que ça sera aucun des Français, mais je pense que Mbappé sera devant Griezmann parce que Mbappé
a marqué les esprits.
Il est parisien, il y a une association avec Neymar. Neymar, il parle de Mbappé quand il est au Brésil, etc. Griezmann, qui en parle à part en France et en Europe, et enfin en Espagne. Il fait pas la une des journaux tous les matins, Griezmann.
En tout cas, Mbappé a contribué, et Neymar aussi, bien sûr, à cette nouvelle victoire du Paris Saint-Germain, ce record historique, puisque c'est la seule équipe dans l'histoire du championnat de France, désormais, à avoir 9 victoires en 9 matchs. Et où s'arrêteront-ils les Parisiens? C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, Thomas Tuchel, eh bien, il a donné une semaine de vacances à ses joueurs. Il les a récompensés maintenant. Alors, évidemment, les internationaux, et on a compté apparemment 17 seulement des joueurs de l'effectif sur 30. On réussit à avoir une semaine de vacances. Mais ce match, Marc, il n'a pas été aussi facile. On y faisait allusion tout à l'heure. Alors Mbappé a raté des choses en première mi-temps, mais ça a été compliqué quand même parce que l'OL au début a offert une certaine résistance, mais il y a eu aussi beaucoup de mauvais gestes et on voit que
Kimpembe
est expulsé très rapidement. Ce pourquoi Cavani va sortir.
Ce qui est surprenant, c'est l'agressivité des joueurs parisiens, peut-être pas dans le bon sens du terme, sur cette rencontre. C'est assez surprenant parce que c'est vrai que les Lyonnais sont allé les chercher très haut.
Déjà Thiago Silva.
Ouais. Non, mais on a vu des gestes qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément du côté parisien. Alors, ce qu'ils étaient prévenus, que peut-être ils allaient être pris à la gorge, ou ils avaient en l'image ce qu'ils ont été capables de faire à City, peut-être. Mais après, Lyon perd ce match. Lyon, oui, pendant une heure, les a perturbés, mais Lyon perd ce match. C'est-à-dire que.
Ils perdent déjà Fekir très tôt.
Mais outre le fait de Fekir, c'est Lopez. Qu'est-ce qu'il sort? Il ne se rappelle pas ce qu'il a fait l'année dernière avec sa sortie
Lopez,
karaté.
Ouais, moi, je crois que c'est
Lopez
tout Tuzar, quand même.
Et Tuzar, non, mais Tuzar, les deux faits de match, ils sont là.
Parce qu'on se contredit, je pense que Lyon peut clairement l'emporter. Étaient plus forts.
Encore une fois, mais quand Tuzar prend le deuxième jaune, tu dis mais c'est fini. Ça devient plus possible. Et puis surtout, quand ils prennent le but, là, à partir de là, ils s'écroulent complètement. Et t'as Mbappé. Mais quoi penser de la prestation? Est-ce que, parce que vendredi, on était ensemble à Nice sur l'émission, je disais, mon avis, il y a vraiment un monde d'écart. Pendant l'heure de jeu, qu'est-ce qui se passe? Après, les choix de Morel, alors qu'on ne consolide pas une défense avec les deux joueurs qui sont capables de jouer tout le temps, et là, on fait jouer Morel. Du côté de Lyon, là, il y a eu un gros souci aussi. Et Paris a su profiter des moindres erreurs, des moindres relâchements de Lyon. Mais sur la première période, Lopez ne fait pas cette sortie parce qu'il est sûr de ne pas avoir le ballon, à part de briser.
Qui provoque le premier pénalty. Ben,
c'est-à-dire qu'à part prendre Mbappé, il peut rien faire d'autre. C'est tout
ça. Ce match, il est c'est bizarre parce qu'on sort avec un phénomène qui marque 4 buts, avec Neymar qui est exceptionnel. Mais moi, ce match-là, il m'a plus inquiété sur le PSG que rassuré,
bien sûr,
en fait.
Ouais, bien sûr.
Parce qu'il y a eu des faits de jeu à 10 contre 10.
C'est qu'ils aient Mbappé,
c'était
Neymar,
un match
mais
complètement
c'est vrai que...
fou à 10 contre 10. Il y avait des espaces partout. Et Lyon, dans le jeu, moi, ils m'ont vraiment impressionné et ils sont capables de tenir la dragée haute. Et c'est inquiétant pour le PSG dans les matchs à haute intensité. On attend Naples. Moi, j'ai vu Naples jouer contre Liverpool. Si Paris joue la façon dont ils ont joué contre Lyon la première heure, ça va être très compliqué pour eux. Parce qu'ils n'arrivent pas à se sortir d'un pressing, de l'agressivité. Ils commettent des fautes grossières et même dangereuses, comme celle de Kimpembe. Ah ouais, s'ils arrivent ça en Ligue des Champions, c'est compliqué après. Hein.
Karine, moi, j'aimerais vous faire parler aussi de l'autre équipe, alors qui surprend dans le mauvais sens du terme, c'est Monaco. Le PSG, hein, on le précise, premier toujours, avec 8 points d'avance sur Lille, qui est toujours deuxième au classement, qui tient en ayant battu Saint-Etienne. Mais par contre, à l'autre bout de l'échelle, donc, on a Monaco. Monaco, eh bien, ils sont 18e. Ils sont donc relégables. C'est pas la première journée où ils restent sur ces strapontins de relégables. Mais surtout, on a l'impression, ils ont été battus chez eux. Par Rennes, en plus. Alors, Rennes avait bien besoin de cette victoire, mais
c'était
eux aussi,
les deux malades, oui.
Voilà. Eux aussi, ils en auraient eu bien besoin. Monégasque 18e. J'aimerais vous poser la question. C'est à quand imaginer un sursaut de cette équipe où il y en aura-t-il un? Est-ce qu'ils vont attendre tranquillement le mercato d'hiver pour essayer de se renforcer? Ou qu'est-ce qu'on peut imaginer du côté de Monaco?
Non, mais ça peut être une solution, clairement, parce que nous, on fait beaucoup de débats sur Monaco et tout le monde est alarmiste. Alors, oui, on peut être alarmiste.
Oui, parce qu'il y a deux ans, ils étaient champions de France.
Mais on sait qu'effectivement, si la situation dure, il y a quand même des fonds pour aller recruter des joueurs cadres qui n'ont rien à voir avec le projet Monégasque mais qui pourront permettre toujours de remonter la pente. Après, évidemment que c'est très inquiétant, évidemment que Jardim cherche ses solutions et que ce système à 5 où soi-disant les milieux doivent travailler et la défense est renforcée, ça ne marche pas parce qu'il continue à tous les matchs de prendre des buts. Mais il y a vraiment des problèmes de niveau individuel, ça on le voit, parce qu'il a beau essayer, une fois c'est Jemerson, une fois c'est Radji, une fois c'est Glick, mais en défense ça ne va pas. C'était déjà un peu le cas l'an dernier, mais il y avait encore des milieux de terrain qui faisaient un petit peu leur boulot. Là, ils sont tout de suite acculés. Mais j'ai quand même des motifs d'espoir dans le sens où il va y avoir le retour de Rony Lopez. Falcao a marqué. Alors, c'est déjà bien parce que c'est un fantôme. Alors, je ne vous dis pas qu'il a été forcément excellent dimanche après-midi, mais il a marqué. Et c'était un joueur qui était en manque de confiance aussi. Il avait raté des occasions énormes face à Saint-Etienne et contre l'Atlético. Alors là, c'était le fantôme, il s'en était pas procuré une. Golovin va forcément faire du bien parce que il va emmagasiner les matchs et il va être meilleur. Donc ils ne finiront, enfin moi je les vois pas du tout relégables. C'est-à-dire que là, on nous explique qu'avec le nombre de points qu'ils ont, ils vont finir en Ligue 2. Ça, j'y crois pas du tout.
Non, Marc, ils vont réussir à sortir de ce très très mauvais pas.
Je crois toujours à Monaco. Alors pour le podium, ça peut paraître dingue et difficile, mais après le projet. Alors c'est vrai que depuis plusieurs années, Jardim s'en sort tout le temps.
Voilà. Mais
c'est vrai
que quand on avait pris l'habitude, il s'en sortait tout le temps.
Sans être méchant, quand on recrute des joueurs de Strasbourg, de Troyes, de Caen, il faut leur laisser du temps d'adaptation. Vous êtes une équipe qui est toujours deuxième de Ligue 1, qui est capable d'aller titiller Paris. Quand vous signez à Monaco, il y a quand même une certaine pression. Les joueurs à Oulu, tous ces jeunes joueurs-là qu'ils ont pris sont intéressants. Mais il faut pouvoir que les cadres derrière assurent. Et derrière, Karine a cité trois joueurs qui ne méritent plus. Non, mais les trois joueurs qu'elle a cités, il faut plus qu'ils jouent. Radji, c'est pas la peine. C'est malheureux. J'ai pas envie d'être méchant, mais les trois, ils sont pas bien du tout. Donc autant faire jouer des gamins du centre, c'est pas possible. C'est pas possible que ces trois joueurs-là, ça associé. Si Dibé, on le retrouve presque plus. C'est très perturbant. Donc aujourd'hui, ces joueurs-là qui arrivent, alors qu'on le veuille ou non, il y a peut-être moins de pression à Monaco, mais c'est quand même Monaco. On en parle tout le temps dans la presse. Il va falloir trouver la solution, quoi. Ou alors dire clairement, écoutez, c'est une saison de transition pour nous. On a réussi pendant 4 ans ou 5 ans à s'accrocher, à arriver deuxième, et c'est toujours un exploit. Et ben là, vous savez quoi, on va faire le dos rond, mais il faut l'expliquer de suite et arrêter de faire croire, parce que chaque année on dit non, mais vous inquiétez pas. L'autre, il fait, c'est un magicien, c'est deuxième ou troisième, deuxième champion,
c'est vrai, c'est
deuxième.
Un magicien, mais...
Là aujourd'hui, il faut pas lui tirer dans les pattes et dire qu'aujourd'hui, ben finalement, des joueurs là, parce que comme Glick, ça fait un moment qu'il est là, ça devient compliqué.
Bruno, on peut y croire à cette magie encore de Leonardo Jardim?
Oui, forcément, mais c'est là, j'en rejoins Marc, on sait pas vraiment, il faudrait une communication beaucoup plus claire. On dit, voilà, ok, on part sur un nouveau cycle de 3 ans, on prend ces joueurs là, on les fait grandir ensemble, on les laisse 3 ans, et on laisse à Jardim 3 ans de revenir sur le podium. Mais là, c'est pas très clair. Je pense aussi qu'ils vont remonter. Après le podium, ils sont à 8 points, on va dire 8 points de Lyon, qui est pas troisième, et 8 points qui est Lyon qui qui est l'un des futurs candidats au podium, plus Marseille qui a 10 points. Donc ça commence à faire beaucoup. Mais voilà, que les dirigeants soient clairs et qu'ils lèvent un petit peu de pression au-dessus de Jardim en lui disant s'il peut finir dans le top 5, c'est très bien.
C'est vrai.
Et sans pression, et puis qu'ils forment ces jeunes, qu'ils les laissent vivre ensemble.
Après, j'ai pas l'impression forcément que Jardim soit sous pression, dans le sens où Vassiliev, à chaque fois, il dit je sais ce qu'il a fait quand
pas
il a choisi.
Pas sous pression, mais au moins qu'on lui annonce les cartes très claires, ou tout le moins aux supporters et aux gens, aux médias, à tout le monde.
Que, voilà. Ils sont,
parce que là, ça, bon. On a l'impression qu'ils ont les mêmes objectifs qu'il y a un an ou il y a deux ans, et qu'il y a 18 mois, ils étaient champions de France. Aujourd'hui, ils ont une équipe de ventre mou, quoi.
Juste pour finir, la première mi-temps face à l'Atlético, c'était extrêmement sérieux du côté de Monaco, et ils avaient fait le job. Alors, ils ont explosé en seconde période, et il n'y a rien à dire. Le 3-0, ça aurait pu être 4 ou 5-0, mais voilà. Il y a quand même, dans le contenu des matchs, parfois des choses qui sont un petit peu positives. Je dis pas qu'ils finiront sur le podium, mais voilà. Ils vont pas non plus finir en Ligue 2 dans la charrette.
En tout cas, à noter aussi, n'est-ce pas Marc, l'OM a profité de cette 9e journée. Bon, ils ont gagné, alors, comme on dit, comme d'habitude, contre un petit, 2-0. C'était contre Caen. Non, c'est pas méchant, c'est réaliste peut-être. En tout cas, les voilà 3e et ils sont à 3 points de Lille, donc ils sont sur le podium. Et pour Marseille, c'est peut-être bien. Mais surtout, un petit mot. On dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Nabil Fekir, donc blessé hier d'entrée pendant le match face au Paris Saint-Germain. Et blessé à une cheville, du coup il s'économise sous le maillot de l'équipe de France, et on a rappelé Dimitri Payet. Est-ce que ça vous semble logique et disons une récompense pour ce joueur?
Bah, de toute façon, s'il n'a pas ses petits soucis pépins, peut-être qu'il fait la Coupe du Monde.
Exact. C'est ce qu'on l'avait dit à l'époque.
Donc après, on connaît le talent de Dimitri Payet, on connaît aussi qu'il peut osciller entre le très bon et le moins bon, qu'il joue 6 mois de l'année. Mais là, je pense que si Héro rentre dans ce groupe France, je m'attendais quoi qu'il arrive un jour qu'il retourne dans cette équipe de France. C'est un petit peu logique, en plus au vu du match. Je pense que c'est quelqu'un qui marche beaucoup à la fête, qui marche beaucoup au sentiment, et à un moment donné il peut pas lâcher. J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de frustration qu'il ne puisse pas faire cette Coupe du Monde. Il y a cette blessure qu'il se fait juste avant la finale. On dit aussi en interne qu'il avait appris la nouvelle le matin même du match, qu'on voit qu'il ne pouvait pas jouer la finale et puis l'a tenté quand même. Mmh. Donc voilà, après ça me semble tout à fait logique, il reste sur de très très bonnes prestations, surtout au Vélodrome.
On y reviendra sur l'équipe de France, puisque elle jouera en fin de semaine contre l'Islande jeudi soir, mais un match amical
à Guingamp,
et le match ensuite la semaine prochaine ce sera contre l'Allemagne. Et bien justement, l'Allemagne, on y reste dans cette Allemagne, parce que il y a eu une défaite encore, et dans le Bostad Arena de Munich, un 3-0 encaissé de la part de Mönchengladbach par les joueurs donc du Bayern, et cela fait 4 matchs sans victoire pour cette équipe. De quoi déjà parler de crise peut-être autour du club, cette institution bavaroise qui d'habitude enchaîne les victoires et les titres, hein. Je vous rappelle, les 6 derniers titres de champion d'Allemagne ont été justement gagnés par le Bayern Munich. Et quand on dit Allemagne, on va vers notre spécialiste David Lortolari. Bonjour.
Bonjour Annie, bonsoir à vos invités, bonsoir à tous.
David, salut David. Racontez-nous, le Bayern 6e à l'issue de la 7e journée, 4 matchs sans victoire et un plus, il y a parmi ces matchs sans victoire 2 grosses défaites. Que se passe-t-il du côté de Munich ?
On est très peu habitué, évidemment, dans ce club et en Bavière à cette situation-là, cette place loin du leadership, même s'il n'y a que 4 points de retard sur Dortmund. Et du coup, il y a de l'électricité. Alors, vous disiez, Annie, à très juste titre, autour du club. Effectivement, il y a de l'électricité dans l'air, mais c'est surtout, de mon point de vue et de ce que j'en sais, surtout à l'extérieur. Parce que, à l'intérieur, on essaye au contraire de garder calme et méthodologie. On a bien en tête, on n'a pas la mémoire trop courte, et on a bien en tête que le club a commencé sa saison par 7 matchs, 7 victoires. Et comme Niko Kovac, l'entraîneur, n'est arrivé que cet été, on entend lui donner du temps. Ça a d'ailleurs été affirmé avec force. Vous l'avez sans doute, ça ne vous a pas échappé, par Uli Hoeneß, l'un des deux présidents, ce week-end, qui a dit qu'il défendrait Niko Kovac
jusqu'à la mort
qu'il faudrait. Voilà, exactement.
Jusqu'à la mort, c'est le mot.
Alors, on veut se donner un peu de temps à Munich, parce que il y a cette trêve internationale qui, disent les joueurs, tombe au bon moment. Donc 2 semaines sans match du club, et ensuite on veut se donner ce triptyque de trois matchs à l'extérieur, un à Wolfsburg, un à l'AEK Athènes en Coupe d'Europe et un à Mayence, pour vraiment faire à nouveau le point avec l'entraîneur et voir si, au terme de cela, c'est-à-dire dans 2-3 semaines, on n'arrive pas à trouver de solution. Pour l'instant, on veut se donner encore du temps. La situation fait penser, Annie, à celle de l'an dernier, parce que Ancelotti était parti au même moment, mais il y a une grande différence, c'est que Carlo Ancelotti, lui, avait déjà fait une saison complète lorsqu'il est parti, et il y avait une lassitude qui s'était installée, ce qui n'est pas le cas pour le moment.
Bruno, Constant, parfois on peut faire aussi des parallèles entre ces grandes maisons qui n'admettent pas des passages à vide aussi importants. Selon vous, est-ce qu'on peut... Notre confrère, le journal Kicker, écrit il y a du désarroi à tous les étages, selon lui, du côté de Munich. Est-ce que vous pensez qu'ils ont le temps, malgré tout, de s'installer dans un nouveau contexte, ces joueurs?
Ils ont davantage le temps que des gros club anglais, par exemple, où il y a une forte concurrence, notamment pour finir dans les quatre premiers. Là, on voit le Bayern, effectivement, ils sont qu'à 4 points, finalement, et que en quelques matchs, ils peuvent très vite recoller. Moi, ce qui m'inquiète le plus, et David pourra peut-être confirmer, c'est l'âge vraiment très vieillissant de ce groupe, équipe. Et j'ai lu, alors je sais pas si c'était vrai, que le moyenne d'âge de l'équipe alignée face à Mönchengladbach était de 29,9 ans. Et ça me paraît hallucinant d'avoir une équipe aussi vieille sur le terrain. On en parlait la semaine dernière avec David, c'est qu'il y a très peu de renouvellement dans cette équipe, dans ce groupe, et ça manque de régénération, quoi.
David, et j'ajouterais, un de nos auditeurs nous écrivait aujourd'hui en disant, mais c'est incroyable, les deux attaquants, Robben et Ribéry, ont 69 ans à eux deux. est-ce que c'est ça l'avenir du Bayern de Munich?
Alors la difficulté, effectivement, c'est que le Bayern va avoir besoin de patience, parce qu'il a bien fait venir des jeunes, et il a bien des jeunes dans son effectif, on peut en citer quatre: Niklas Süle, le défenseur central, Leon Goretzka au milieu de terrain, Serge Gnabry et Kingsley Coman en attaque, mais le dernier cité est blessé. Goretzka vient d'arriver, il n'est pas encore complètement intégré, Gnabry n'a pas encore le niveau de Franck Ribéry, et Süle, lui, quand même maintenant, peut prétendre à faire la rotation avec Boateng et Hummels. Donc les jeunes, ils sont là, mais ils ne sont pas encore au niveau d'une victoire en Ligue des Champions, ils sont pas encore au niveau des anciennes stars, et effectivement, il y a cette transition qui, au Bayern, risque d'être un petit peu pénible, parce qu'il va falloir être patient pour que ces jeunes-là, qui ont le potentiel qu'on connaît, arrive vraiment au niveau des anciens pour pouvoir réellement les remplacer.
Ouais, on a l'impression surtout qu'elle prend du temps quand même, parce que ça fait longtemps que Robben est là, plus ou moins en pointillé, parce qu'il est souvent blessé. Ribéry, c'était pareil. Mais on parle d'une grogne dans le vestiaire, et notamment James Rodriguez, qui ne se satisferait pas d'être de ce style de Nikola Kovac, qui est d'alterner les joueurs et de les remplacer régulièrement.
Oui, d'ailleurs, il y a des consultants, des grandes gueules, des fortes têtes dans le paysage médiatique allemand qui réclament que ça tourne moins, que le turnover soit moins grand. Ça, c'est le choix de l'entraîneur. Mais c'est vrai que s'il y a un joueur sur lequel on peut polariser, parce que effectivement il est rapidement grognon s'il ne joue pas, c'est ce Colombien James Rodriguez, qui est l'artiste, on va le dire, de l'effectif, qui revendique une place de titulaire que l'entraîneur ne lui a pas toujours donnée pour le moment, et surtout, on imagine qu'il serait meilleur dans l'axe. Or, James a été utilisé pour remplacer parfois soit Robben, soit Ribéry dans un poste auquel plutôt délié sur le côté, dans lequel il est peut-être moins rayonnant. Donc c'est ça aussi qui a entretenu une certaine grogne. C'est quand même néanmoins un cas un peu à part, James Rodriguez, parce que les autres joueurs, s'ils commencent à beaucoup discuter, sont plus à même, à mon sens, de rentrer dans les plans de l'entraîneur.
David, il y a eu, vous parliez de Carlo Ancelotti, on s'en souvient l'année dernière, évincé à la suite d'une défaite à Paris 3-0, mais surtout d'un moment d'un peu de creux au Bayern. On se souvient qu'il y a plusieurs années, Félix Magath aussi avait dû partir après un mauvais moment. Est-ce que Jupp Heynckes, selon vous, prépare déjà ses valises pour ressortir de sa retraite?
Alors il y a une blague qui est ressortie, que Thomas Müller avait faite en début de saison, pour dire lorsque Heynckes est parti, il s'était exprimé rapidement sur les réseaux sociaux, Thomas Müller, en disant cher Youp, rendez-vous en octobre. Sous-entendu, tu vas revenir. C'était une blague, bien sûr. Non, il n'est pas question qu'il sorte de sa retraite, mais évidemment tout de suite son nom réapparaît dès qu'il y a discussion.
Le sauveur.
Les présidents, j'insiste sur ce point, les présidents du Bayern vont défendre Niko Kovac aussi longtemps qu'il sera possible, parce que ce sont eux qui ont installé cet entraîneur, qui l'ont choisi. Ils ont ils ont été obligés de renoncer à Thomas Tuchel parce qu'ils ont traîné. Ils ont été obligés de renoncer à Nagelsmann d'Offenheim parce que celui-ci, de leur point de vue, était encore trop jeune. Kovac, c'est leur choix, donc ils vont le défendre aussi longtemps qu'il sera possible.
Karine, ouais, David, je voulais savoir, en Allemagne, comment c'est perçu? Parce que nous, on a vu notamment les buts encaissés par le Bayern, et notamment le troisième, suite à un corner. On a vraiment l'impression que personne est concerné, et que c'est voilà un renoncement collectif. Alors, je dis pas que c'est la même situation, et tu l'as très bien expliqué, que par rapport à Carlo Ancelotti, mais finalement, ce qui s'était passé avec Carlo Ancelotti, c'est qu'il y avait une vraie fracture aussi avec les joueurs, et là, le troisième but, enfin, tu peux l'interpréter de plein de façons et de façon oui. très négative.
Oui, c'est vrai que c'est ressenti très largement comme cela, et c'est d'autant plus ressenti comme cela qu'il y a toujours, de la part des fans de football en Allemagne, des supporters, il y a toujours ce défoulement dès que le Bayern déraille un petit peu. Les supporters qui sont soit ils sont pro-Bayern, soit ils sont anti-Bayern, on le sait en Allemagne, c'est comme à Madrid ou comme pour un Paris Saint-Germain ou un OM, et tout le monde se défoule pour dire que ça fait du bien quand un club comme ça se loupe. Effectivement, cette analyse-là, elle est partagée par les supporters du football en Allemagne. Après, ce ne sont que des réactions de supporters dans les tribunes, c'est difficile, mais je peux confirmer effectivement, Karine, il y a une espèce de vent de révolte dans le paysage des gens qui suivent le football en Allemagne, sans doute, à mon sens, et je le répète, j'insiste, plus à l'extérieur que dans les couloirs du club.
David, une dernière petite question. On lit des rumeurs, alors on l'en voit partout, hein, c'est clair. Zinedine Zidane, il a failli aller à Manchester United. Maintenant, on se dit pourquoi pas au Bayern. Vous y croyez à ce genre d'hypothèse?
Peut-être à moyen terme ou à plus long terme, dans la mesure où il n'y a pas d'incompatibilité entre ce qui plaît à Zinedine Zidane dans le football en général et un pays et un championnat comme la Bundesliga. Il a dit lui-même renoncer à certains championnats. Il n'a pas évoqué ni lui ni son entourage d'allergie avec l'Allemagne. Je peux y croire, mais pas dans une solution immédiate.
Merci beaucoup David Lortolari d'avoir été en ligne avec nous, et précisons eh bien que le Borussia Dortmund de Lucien Favre continue lui premier, 4 points d'avance, aucune défaite.
Young with the cross.
Ce ne sera pas pour cette fois, pour l'instant, que Manchester City l'emporte à Anfield. On entendait le but de Manchester United. Alors, Manchester United n'a pas perdu au cours du week-end. On va y venir. Mais pour l'instant, on avait annoncé ce sommet entre Manchester City et Liverpool. C'était à Anfield. Reds et Citizens ont terminé cette rencontre, disons, dos à dos. Les deux équipes, tout comme d'ailleurs Chelsea, restent invaincues en championnat. Mais cette rencontre a peut-être été frustrante, Bruno. On s'attendait à des buts, du spectacle, et finalement, ça n'est pas venu.
Bah, si on considère que la qualité d'un match, d'une affiche, elle se résume assez à son nombre de buts, on peut être déçu, sauf que c'est pas le cas.
Et oui, parce qu'on a deux fins tacticiens qui...
Ben voilà, et le changement, effectivement, on était habitué à un feu d'artifice, il y a eu 18 buts sur les 4 dernières confrontations, beaucoup trop au goût de Pep Guardiola, qui perd souvent face à Klopp, et il y avait surtout l'envie de Guardiola de changer ça avec une approche un peu plus, pas défensive, mais plus prudente.
Et ben justement, Guardiola, vous en parlez, on va l'écouter, parce que Guardiola, effectivement, 8 rencontres, une seule victoire avec les Citizens, et il explique, à son sens, pourquoi ça ne marche pas.
Vous jouez, vous voulez créer du jeu, mais Liverpool attend que vous fassiez une erreur. Et si c'est un jeu ouvert contre Liverpool à Anfield, vous n'avez même pas une chance, pas même 1% de chance de réussir. Ils sont la meilleure équipe du monde à jouer avec cette transition défensive-offensive, parce que l'équipe de Liverpool est faite comme ça. C'est ce que Jürgen Klopp veut construire.
C'est ça, selon vous, le mur auquel se heurte finalement Guardiola et ses Citizens?
Bah, c'est surtout le piège dans lequel il est souvent tombé, c'est-à-dire que
l'année dernière, il avait déjà, enfin, en 2018, il avait déjà perdu trois fois, trois matchs. Donc là, au moins, c'est match nul.
Mais à chaque fois, ils avaient attaqué le match pied au plancher en jouant leur football, peu importe le terrain. Et là, il a une approche un peu plus prudente. Il était pas loin du match parfait parce que défensivement, ils ont extrêmement bien défendu et surtout, ils ont ce penalty de Mahrez qu'ils ont en tribune, mais qui aurait pu mettre fin à 15 ans de disette de City à Anfield. Mais je trouve que City a extrêmement bien joué. Je trouve un peu Liverpool qui était un peu décevant dans cette affiche, mais parce que Liverpool sort d'une série abominable entre le PSG, Naples, Chelsea deux fois.
Naples aura fait peut-être du mal aussi. Naples aura fait un petit peu de mal.
Physiquement, ils sont un peu moins bien, effectivement. Il y a un peu moins de pressing, un peu moins d'agressivité.
Marc.
Ouais, et puis on a eu surtout une équipe de City qui ne s'est pas jetée dans la gueule du loup, qui a pour une fois a laissé le jeu et a attendu, quoi. Et le plan a failli marcher, hein. Le plan a failli marcher. Malheureusement, ça se tient à peu de choses. Si Agüero ne sort pas, enfin, s'il est là, c'est lui qui tire. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais tactiquement, techniquement, c'est vrai.
Ce qui est surprenant, c'est par exemple sur l'histoire du penalty. Ce Guardiola, on le connaît, il veut tout prévoir. Et là, il ne savait pas. Enfin, en tout cas, à la fin du match, on lui demandait est-ce que vous savez que Mahrez avait raté 5 des 8 derniers penalties. Il dit non, je ne savais pas.
C'est
étonnant quand même.
Il paraît que dans la semaine, il est tiré. À l'entraînement, il les met à chaque fois.
Oui, mais à l'entraînement.
Non, c'est ce que les mecs ont dit. Je sais, mais c'est ce que les joueurs ont dit.
Il y a des joueurs qui sont très très bons en entraînement.
Ah ouais, j'en ai connu des très bons.
Karine, ça veut dire que finalement, Jürgen Klopp reste un peu la figure comme ça, qui empêche Pep Guardiola de tout écraser en Angleterre.
Oui, parce que, alors moi, j'ai pas exactement la même lecture que Bruno. Pourtant, je sais que c'est le spécialiste anglais. Mais je trouve que quand même, ce pressing très haut de Liverpool, les a énormément gêné City. Et effectivement, on finit avec un 0-0. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que le trio est quand même beaucoup moins bien? Ça, là, on le sait, ça fait des semaines.
Ça y fait
Sané
aussi.
Était au rendez-vous et faisait un petit peu oublier la méforme, entre guillemets, de Salah. Et là, hier, il a pas été dans un très grand soir. Donc, finalement, l'an dernier aussi, on avait un trio qui était extrêmement performant et qui punissait grandement City. Là, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire la même chose et que l'idée de presser c'est très haut, elle a fonctionné, elle a gêné City. Après, quand t'as tes trois flèches qui sont moins en réussite, forcément, le résultat du match est un petit peu différent.
Alors, je vais te contredire, effectivement.
Tu mais peux.
Je peux. Liverpool n'a pas du tout pressé très haut. Il y avait une séquence dans Match of the Day qui était très intéressante, qui comparait les deux matchs. Et en fait, la ligne moyenne de Liverpool était beaucoup plus basse.
Ouais, voilà.
Et en fait, il y a surtout moins de jus, en fait, moins de gaz dans cette équipe parce que l'équipe tourne très peu, le 11 tourne très peu. Effectivement, les trois de devant sont nettement moins bien que la saison passée, c'est clair. Mais il manque un petit quelque chose encore physiquement et visiblement aussi, il y avait des consignes de Klopp d'aller un peu moins chercher City parce que ça l'avait aussi.
Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, Salah n'est plus le grand Salah. La magie a disparu depuis le début de la saison.
Ouais, mais elle a disparu si on se souvient des 8 derniers mois. Mais quand on regarde le début de saison de Salah, la saison passée à la même période, il était à peu près dans le même état de forme. Il se crée autant d'occasions de but. Le seul truc, c'est la finition. Et l'année dernière, à même époque, il était à peu près au même stade.
Il s'est passé des choses entre-temps avec la sélection, avec toi. C'est peut-être pour ça.
Et puis, il y a un homme aussi, pour le coup, qui est sorti prématurément, Milner. Et je pense que ça a fait forcément du mal à Liverpool. Après, Mahrez, on parle de ce pénalty qui est manqué. C'est vrai. Et c'est incontestable. En deuxième mi-temps, il est quand même très précieux. Et des offensives, c'est lui qui reste jusqu'au bout. Il est titulaire et il finit le match. Donc... évidemment, il aurait aimé offrir la victoire et tout, mais je trouve que quand même, Mahrez, en seconde mi-temps sur ce qu'il fait, c'est quand même positif dans le contenu. Après, on retiendra le pénalty manqué.
Bruno, en tout cas, quand vous parlez de résultats presque parfaits, je sais que Gilles Verdez, ici, à ce micro, plusieurs fois, a dit que pour lui, le résultat, le match parfait, c'est quand c'est un 0-0, parce que finalement, personne ne
s'est fait d'erreur.
Oui, pour les
voilà. C'est le cousin de Didier Deschamps, non? Il y a un truc.
Sans doute. Non, on est à Manchester, restons-y. Et Marc, c'est exactement de quoi je veux parler aussi, parce qu'il a fait un petit tour à Manchester durant le week-end. Oui. C'est ces Red Devils qui ont gagné. Alors, je dirais enfin, et en effectuant, alors, je m'amuse en utilisant le terme remontada, mais c'est vrai que Manchester United, qui recevait Newcastle, dans les tréfonds du classement anglais, eh bien, avait d'abord mené 2-0 avant, eh bien, d'être battu sur le score de 3-2. Et alors, pour Lukaku, on va l'entendre, Romelu Lukaku, l'international belge, les mauvais fantômes qui hantent un peu Manchester United seraient un peu éloignés.
Je pense qu'aujourd'hui, si on aurait perdu, ça va être un fiasco total. Mais voilà, je pense que le coach a toujours notre soutien. Et voilà, nous, on est quand même des professionnels. On ne doit pas toujours pointer du doigt vers le coach. C'est nous, les joueurs, qu'on doit faire le travail sur le terrain. Et voilà, maintenant, après la trame internationale, comme j'ai dit, on aurait deux gros matchs. Et voilà, si on fait de bons résultats, je pense qu'on pourrait regarder vers le futur.
Qui vient de rentrer.
Alors, regardez vers le futur. Alors, d'abord, ce match, Marc, c'est comment un match où Manchester United à Old Trafford est mené 2-0 et tout d'un coup on revient et on gagne.
Ouais, non, mais c'était une ambiance à la mi-temps, c'est beaucoup de sifflets. Les joueurs de United partent en courant comme d'habitude. Mourinho part en courant aussi comme d'habitude.
Ils partent au vestiaire.
Ouais, ils partent au vestiaire en courant.
Qu'ils quittaient le stade.
Non, on pensait, mais bon, ils avaient tellement pas beaucoup couru que c'est peut-être le seul effort qu'ils ont fait, c'est de rentrer au vestiaire tellement que c'était flagrant. Et en seconde période, De Gea les sauve encore une fois parce que De Gea a encore été énormissime parce que s'il y a 3 voire 4 à 0 à la 60e, il y a absolument rien à dire. Et puis là, la machine se met en route. Pogba se met à découvrir qu'il a des jambes et qu'il peut courir. Martial se dit, finalement, de manger la ligne côté gauche, ça ne sert rien, je vais rentrer dans l'axe et aider un petit peu Lukaku, finalement je vais jouer, je vais bouger, et à l'arrivée ça donne, Mata qui rentre, Eric Bailly qui sort rapidement parce qu'il est dépassé, donc Mata qui rentre, Alex Sanchez qui rentre, et à l'arrivée on a une équipe qui en 25 minutes chavire tout, c'est voilà, mais on peut pas dire que sur la première période qu'on voit des joueurs mais marcher, c'est-à-dire que marcher, faire aucun effort défensif, et là j'adore Pogba, je trouve qu'il a évolué énormément. C'était le mauvais Pogba, c'est pas le Pogba de l'équipe de France, Didier Deschamps. Et la seconde période où finalement il y a une prise de conscience à l'heure de jeu, puis on se dit
ça serait bien de gagner.
Ça serait bien de commencer à courir. Et puis là, la machine se met en route et on a un final de folie.
Et Bruno, comment comprendre ce Manchester United à deux visages? Parce que depuis le début de la saison, c'est plus ou moins ça. On se souvient, ça commence bien, Pogba qui revient champion du monde, qui va bien et tout. Puis c'est haut et c'est bas avec les humeurs évidemment de Mourinho.
Ça tient quand même principalement à José Mourinho, c'est pas le seul responsable, mais c'est quand même le principal responsable.
C'est lui qui donne le là.
C'est lui qui est en charge de l'équipe, c'est lui qui recrute depuis 2 ans, qui recrute avec énormément d'argent. Alors certes, il se plaignait cet été de ne pas avoir recruté le défenseur central. Enfin, quand on a déjà recruté pour 400 millions de livres, à un moment donné, on peut pas non plus. Mais ce qui est marrant, c'est que United est redevenu Manchester United avec cette équipe offensive qui attaque, qui vraiment avec des vagues rouges sur le but adverse, est revenu grâce un peu pas au banni, mais au dessus de Mourinho. Il y a le but
Martial.
De Mata sur coup franc qui est relégué sur le banc depuis le début de saison. Martial qui sort de nulle part pour mettre ce but, puis un but magnifique avec Pogba.
À part le but, il a pas fait grand chose, mais il a mis le but.
Non, mais il a essayé, il a provoqué, il a fait des choses.
Dans la dernière demi-heure.
Il a persisté. Et puis Alexis Sanchez, on se pose des questions sur lui. Arrivé en janvier, il est catastrophique. Et là, il va sortir ce but pareil de nulle part. Il avait été épouvantable depuis son entrée en jeu.
C'est le syndrome numéro 7, Alexis Sanchez.
Peut-être,
c'est le 7 de Manchester.
Peut-être.
N'oublie pas.
Il était temps.
Il y en avait beaucoup qui l'ont eu. Qui c'est pas marché le 7.
Est-ce qu'on peut dire que José Mourinho, là, on rentre dans une trêve internationale, mais et Manchester United se sont achetés un peu une tranquillité pour quelques temps,
forcément.
De montrer qu'ils peuvent aussi avoir les ressources et revenir dans un match. C'était certes Newcastle.
On dit souvent qu'avant une trêve internationale, il vaut mieux gagner pour justement avoir un peu de pendant 15 jours et il y avait des rumeurs, quelques journaux anglais qui avaient sorti avant le match de Newcastle que ça pouvait être le dernier match de Mourinho, ça a été très vite démenti par le club. Je pense pas qu'il y ait la volonté de limoger Mourinho avant la fin de la saison, déjà parce qu'il n'y a pas grand monde pour le remplacer, même s'il y a la rumeur Zidane et que c'est pas très clair. Mais voilà, ils ont fait le choix avec Mourinho, ça va coûter cher, pas les 26 millions d'euros que j'ai entendu, mais il est plutôt 12-13. Mais voilà, c'est surtout un problème de vestiaire en fait.
C'est bien, c'est déjà pas mal. On finit le match, Mourinho est scandé, il part face à la caméra et il montre du doigt en expliquant quoi qu'il arrive. Enfin, il explique qu'il est toujours là, il est présent, c'est le patron quoi. Mm-hmm. Et tout le stade scande Mourinho. Et le lendemain, j'étais à Manchester, on était encore au stade, on a vu des gens, on a rencontré un peu des gens du club. Ils sont à fond sur Mourinho, ils adorent Mourinho. C'est-à-dire que le revirement qu'il y a eu, c'est que Mourinho. C'est-à-dire qu'il parle que de lui. Mais c'était avec des gens du club.
Mais ils l'ont voulu en plus, parce qu'il a été nommé.
C'est hallucinant.
Mais alors que personne comprend ce qu'a fait Mourinho tactiquement.
Il était au bord du gouffre, il a envie de la faire rentrer les
vides. Pogba, soi-disant, était dans une défense à 3. On ne sait pas où il était, il était partout. Enfin, c'était impressionnant.
Le grand fouillis.
Mais certains supporters disent aussi que c'est faux de dire que les joueurs jouent pour Mourinho et se sont battus pour Mourinho. Ils ont surtout joué pour eux-mêmes. Et qui sont redevenus United parce que c'est ce qu'ils ont envie d'être. Et ce qu'avait dit Pogba, quand Pogba avait fait sa sortie médiatique, il lui a coûté très cher, il avait dit qu'il voulait une équipe qui attaque. Et est-ce que c'est ce qu'on a vu pendant la deuxième période de samedi.
Mais justement, Marc, qu'est-ce qui leur plaît chez Mourinho, finalement. Vous dites le club est à fond derrière lui. Qu'est-ce qu'ils en attendent? On connaît le personnage, on connaît ses sauts d'humeur, mais on sait qu'il peut faire gagner aussi des titres.
De toute façon, la première année, déjà, il arrive, il gagne la Ligue Europa, déjà, dès le départ.
Et la deuxième année, ils sont deuxième.
Ils sont deuxième, mais après, c'est un personnage. Sur le banc, il ne s'arrête jamais, il est toujours dans sa zone technique. Voilà, quoi. Et puis, il fait des déclarations après. Voilà, c'est Mourinho, quoi. C'est difficile parce que les gens sont. Ouais, c'est.
Et ça plaît à Manchester.
Bah non, mais bon, à l'arrivée, il redonne des couleurs. Non, mais bon, après,
il est là, en tout cas.
Il est là, il est présent. Il a quand même quelque chose. Quand on l'a croisé, il a quand même quelque chose. Faut le dire, il représente quelque chose, quand même.
C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup, Karine, Marc et Bruno d'avoir participé aujourd'hui à cette émission. Merci aussi à Louis Lafargue qui m'a aidé à préparer Radio Foot. À la réalisation, il y avait Laurent Salerno. Et on se dit à demain.